Bonjour Alexandra Jousset.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous co-signez un documentaire qui passe ce soir sur Arte, Les Nouveaux Manipulateurs. Et ça passe également quand on veut sur Arte.tv. Avec vous, avec nous, Anthony Orliange, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes producteur à l'agence Kappa. C'est vous qui avez apporté ce projet de film à Arte et qui l'avez ensuite confié à Alexandra Jousset, je dois dire, avec Philippe Lanier qui en assure la co-réalisation. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce sujet? Je commence par vous avant qu'on rentre dans le détail et le contenu, Anthony
Orliange. En fait, à l'époque, c'était il y a deux ans, on réfléchissait au sujet qu'on pouvait proposer pour la campagne américaine, et en discutant avec Fabrice Puchot de l'unité Société et Culture à Kappa, on s'est dit mais non, en fait, ces histoires de désinformation, ces histoires d'intox, de montée des tensions, ça concerne pas que l'Amérique, ça concerne le monde entier. Ces gens s'échangent leurs recettes, se filent leurs techniques, s'imitent, et du coup ça touche le monde entier et pas seulement l'Occident. Et c'est ça qu'on voit dans le film, c'est que ça touche un pays comme l'Inde qui paradoxalement est très en avance sur ces techniques de désinformation et de montée des tensions par les réseaux sociaux.
Ce qui est absolument passionnant, on voit l'Inde, on voit l'Italie, on est habitué, le Brésil, les États-Unis, mais également l'Inde. Alors d'abord, les nouveaux manipulateurs. Qui sont ces nouveaux manipulateurs, Alexandra Jousset? Ils nous manipulent où et comment?
Ben, ces manipulateurs, c'est ça qu'on raconte, c'est les hommes de l'ombre, c'est des techniciens en fait, c'est des ingénieurs. C'est ceux qui comprennent comment marchent les algorithmes. Ce qu'on voit en Italie, Morisi, qui est le conseiller de Salvini, c'est quelqu'un dont on n'a jamais vraiment entendu parler, mais c'est lui qui comprend l'importance des réseaux sociaux et l'importance du micro-ciblage en fait. Ouais.
Alors puisque vous parlez de lui, moi j'ignorais totalement son existence avant votre documentaire. Il s'appelle Luca Morisi, c'est un trentenaire, un docteur en philosophie qui ne donne jamais aucune interview. Comment a-t-il ciblé les personnes pour qu'elles se mettent, pardon de dire les choses aussi manichéennes, à voter Salvini?
En fait, il a commencé à comprendre, enfin, c'est ce qu'on explique dans le film sur le côté à exploiter les poches de rage. C'est-à-dire qu'au début, il a commencé par le nord qui n'aimait pas le sud de l'Italie. Donc c'est comme ça, il a compris que c'est ça l'argument qui marchait.
Salvini venait de la Ligue du Nord, et en gros, l'argument de ces gens-là, c'est de dire le sud fainéant profite des subventions payées par les industrieux du nord.
Exactement. Et donc quand il a commencé à lancer ces messages-là sur Internet, il a vu que c'est ça qui avait tout de suite le plus de réactions. Et donc en fait, ce qui est comme arme de Facebook ou des réseaux sociaux, c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'attendre le résultat de sondage qui vienne 4, 5, 6 jours après. Vous les avez immédiatement. C'est le sentiment analysis. Et donc c'est ça qui
l'analyse des sentiments. L'analyse des sentiments. J'ai découvert ça.
Exactement.
Et ça va encore plus loin. Je saute une étape puisqu'il arrive à faire que le message de Salvini ne prenne pas seulement au nord, mais également au sud, avec un autre argument et une autre cible.
Exactement, les migrants. Et c'est comme ça, en fait, que Salvini a construit cette image de populiste et qu'ensuite, il a transformé son message de anti-sud au message anti-migrant. Et évidemment, un message populiste qu'on comprend et qu'on a vu d'ailleurs dans d'autres pays. Mais ce qui compte, c'est la technique. C'est comment il a affûté son message pour pouvoir être élu.
Alors, votre documentaire nous emmène également au Brésil. Anthony Orliange, pardon de cette question, mais ça coûte cher un doc comme celui-ci? C'est une coproduction entre plusieurs pays?
Alors, c'est pas une coproduction entre plusieurs pays, c'est une coproduction entre Arte et Kappa. Oui, ça coûte très cher parce qu'il y a quatre destinations. Il y a un temps d'enquête qui est assez long. Ce sont pas des gens qui ont envie d'apparaître du tout à la télévision. Il faut donc monter des caméras cachées, notamment au Brésil. Alexandra et Philippe ont fait un travail remarquable pour aller voir les data miners, les extracteurs de données.
Et je vais en parler à la fin de cette séquence. Ouais, ça fait peur, ça fait froid dans le dos, les data miners.
Et donc, en fait, c'est long, c'est de l'enquête, c'est de l'investigation, ce sont des destinations. Il faut pas oublier qu'on était en plein Covid, donc il y avait des destinations qui étaient très difficiles, rien que pour voyager. Donc effectivement, voilà, c'est un certain budget, mais en même temps c'est un investissement qui vaut le coup parce que c'est un film citoyen qui permet à tout un chacun de comprendre comment fonctionne la propagande aujourd'hui.
Alors au Brésil, vous révélez que les équipes du président Jair Bolsonaro, pour le faire élire, ont piraté incognito la messagerie préférée des Brésiliens. Deux Brésiliens sur trois utilisent WhatsApp. Bon, hier soir ils étaient en carafe, mais bon. Mais comment ils les piratent? Il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Ici, dans l'émission Culture Média, on a un groupe WhatsApp. Ouais. Personne ne peut venir s'immiscer dans le groupe WhatsApp. Comment ils font?
Alors, il y a des groupes, déjà il y a plusieurs choses. Il y a des groupes WhatsApp ouverts. Donc ça, c'est pas forcément le cas de votre groupe de l'émission.
On est juste la petite équipe.
Voilà, la petite équipe. Ensuite, l'idée de pirater le groupe WhatsApp, c'est plutôt philosophique. C'est-à-dire qu'en gros, ils créent des groupes WhatsApp qui sont chargés de disséminer les nouvelles. Donc par exemple, l'idée c'est que WhatsApp, vous faites confiance aux gens sur WhatsApp. Parce que WhatsApp, c'est votre mère, c'est votre père, c'est votre cousin, c'est les gens avec qui vous travaillez. Donc quand on vous forward une nouvelle sur WhatsApp, vous avez tendance à plus le croire. Et du coup, eux, c'est ce qu'ils ont fait dans le cabinet de la haine. Ils ont créé des milliers de groupes groupe WhatsApp dans lequel ils mettaient leur propagande. Et par exemple, si vous êtes dans un groupe WhatsApp du quartier, de là où vous habitez, dans je sais pas quoi, le 15e arrondissement de Paris, et ben on vous forward une nouvelle. Si c'est un parent d'élève de l'école qui vous forward, vous avez tendance à le croire. Et du coup, vous le renvoyez dans votre groupe WhatsApp. Et c'est comme ça qu'en fait, ils ont réussi à disséminer ces nouvelles. C'est en utilisant le biais de cette plateforme qui est un biais de confiance.
Alors, cette technique a été révélée, dénoncée par une journaliste brésilienne, elle s'appelle Patricia Campos, et elle a révélé la manière dont travaillait le clan Bolsonaro, ce camp de la haine que vous appelez, et elle a subi, à la suite de ça, des représailles. On l'écoute.
Le premier article que j'ai fait sur cette histoire démontrait que pendant la campagne, ils avaient des hommes d'affaires qui collectaient de l'argent de donateurs. Et ces businessmen achetaient à des agences de marketing politique des lots d'envoi massifs de messages sur WhatsApp contre le Parti des travailleurs et son candidat, Fernando Haddad. Le cabinet de la haine n'a pas supporté que la presse dévoile sa manipulation électorale. Les représailles contre la journaliste sont foudroyantes.
Eduardo Bolsonaro
a tweeté que j'avais proposé des relations sexuelles pour obtenir des informations contre son père. Tous les blogueurs de droite ont commencé à tweeter, à publier sur Facebook. En quelques heures, ils avaient posté toutes sortes de mèmes, des messages satiriques, avec des images pornographiques, des femmes nues et un montage avec mon visage dessus.
C'est vous, Alexandra Jousset, qui avez interviewé Patricia Campos, et quand vous lui demandez si elle va continuer à enquêter, les larmes lui viennent aux yeux et les mots ne viennent plus.
Exactement, elle était très émue à ce moment-là. Alors elle dit qu'elle va continuer à enquêter, mais elle dit cette chose, elle dit « je fais une pause avant de publier ». Et du coup, c'est vrai que ça a vraiment limité. Enfin, pas limité, mais elle se pose vraiment énormément de questions maintenant en tant que journaliste d'investigation, si même son fils ne va pas un jour être touché.
On reste au Brésil, vous parliez des data miners, vous les avez débusqués au Brésil, vous avez créé un faux parti, les femmes pour la France, vous filmez, vous l'avez dit Anthony Orliange, en caméra cachée, qu'avez-vous découvert? Qui sont ces data miners?
Il y a deux sortes, on a découvert deux sortes de data miners. Le premier, celui où on a été dans le Minas Gerais, c'est des gens qui, enfin nous on trouvait ça assez incroyable, qui grâce à des logiciels pirates, rien qu'en rentrant un hashtag, arrivent à récupérer les données sur tous les gens qui ont publié ce hashtag. Mais ce qui était dingue, c'est qu'on leur a demandé de faire un hashtag sur la France. On était censé être un parti populiste anti-avortement, donc on leur a demandé de faire le hashtag avortement. En quelques minutes, on a eu une liste de milliers de gens qui avaient publié sur les réseaux sociaux le hashtag avortement. Mais non seulement on avait la liste, mais on avait leur nom, leur prénom, leur géolocalisation, leur adresse, leur numéro de téléphone.
Ouais.
C'est-à-dire que ça permet de construire et de faire des listings géants de données sur les gens et en fonction de ce qu'ils votent, en fait. Alors, vous ne savez pas s'ils ont utilisé avortement en disant « je suis contre ou je suis pour ». Mais vous savez que c'est un sujet...
Un enjeu pour eux.
Un enjeu pour eux, exactement.
Voilà. Et là où c'est complètement dingue, vous avez flouté, mais on voit tous ces noms de gens qui sont en région parisienne et ailleurs. Ça pourrait être vous et moi, toute
l'équipe. En l'occurrence, j'ai retrouvé des numéros de téléphone de gens que je connaissais. Il y en a un, j'ai retrouvé un numéro de téléphone de Jean Chenesset qui était sur un groupe, vous savez, Nous Toutes, pour la manifestation Nous Toutes. On ne l'a pas, évidemment pas mis, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vous et moi. C'est pas, il ne faut pas croire que c'est quelqu'un d'autre. Et l'autre chose qu'on a fait dans Caméra Cachée, c'est celui qui fait ce qu'on appelle, est-ce qu'il y a un MC Catcher.
Vous savez quoi? On marque une pause et on raconte ça, parce que là aussi, il faut que je m'en remette de mes émotions. À tout de suite, Culture Média continue. Alexandra Jousset, Anthony Orliange.
L'émission Réelle.
Les nouveaux manipulateurs, doc ce soir sur Arte à 21h et quand on veut sur arte.tv. Nous sommes avec Alexandra Jousset, c'est journaliste qui a co-réalisé cette enquête, et Anthony Orliange, vous êtes le producteur. Vous avez envoyé des équipes dans un pays où on va très rarement, dont on parle quasiment jamais, et surtout pas pour ce sujet-là, l'Inde. L'Inde dirigée par Narendra Modi, il est le premier ministre de la démocratie la plus peuplée au monde. Pourquoi on en parle? Parce qu'il est également sur Facebook le dirigeant politique le plus suivi au monde, 46 millions de followers, mais surtout, il possède son propre réseau social totalement indépendant. Namo sont les deux premières lettres de son prénom et de son nom. On se dit que c'est formidable. En tout cas, ça pose aucun problème qu'un philosophique, qu'un chef d'État ait son réseau social. On remarque que Donald Trump avait créé sa propre plateforme, j'arrive à le dire, et l'a abandonné. Mais pourtant, il y a un revers à cette médaille. Lequel est-il, Alexandra Jousset?
Le revers, c'est que déjà, il traite les données des utilisateurs sur des serveurs qui sont étrangers. C'est ce qu'a découvert Elliot Alderson, un hacker français, ce qui a fait énormément de bruit en Inde. C'est-à-dire que dès que vous allez quelque part sur cette page, tout est donné, tous les clics, tout ce que vous faites, tout ce que vous lisez est non seulement collecté, mais aussi analysé aux États-Unis pour dans une société qui s'appelle CleverTap, par une société qui s'appelle CleverTap, pour savoir quels sont les sujets qui vous intéressent et qu'est-ce qui fait le plus de buzz. Le problème de ça, c'est que du coup, le dirigeant n'a plus de politique générale, mais en fait, va juste s'intéresser et s'adresser à vous à travers sa plateforme que sur les sujets qui vous intéressent et avec un point de vue qui pourrait vous intéresser.
C'est-à-dire qu'en gros, et parfois c'est même contradictoire, c'est-à-dire c'est comme si un président, il parle aux pro-chasse en disant qu'il est pour la chasse, et il parle aux écolos en disant qu'il est anti-chasse.
Exactement.
La même personne en ciblant, et chacun croit qu'il reçoit un message universel,
exactement.
Ce qui est faux.
Totalement. Et donc ça, c'est à travers c'est ça que avait fait Donald Trump déjà, enfin toute cette idée de Cambridge Analytica, et c'est ça que fait Narendra Modi, mais par sa propre plateforme. Parce que l'autre chose aussi, c'est que les autres dirigeants passent par des plateformes qui peuvent avoir des modérateurs, qui peuvent modérer du contenu, qui peuvent essayer de limiter les fake news. On voit que c'est évidemment pas c'est pas parfait, mais en tout cas il y a des tentatives. Quand c'est votre plateforme, c'est vos règles. C'est vous qui faites ce que vous voulez. Et personne ne peut contrôler. Et c'est ça ce qui se passe avec Namo.
Et ça va très très loin, puisque ça va jusqu'à l'appel au meurtre. Parce qu'il y a souvent aussi des histoires de nationalisme. Et on voit par exemple la tentative de lynchage d'un musulman indien qui a été accusé de propager volontairement le Covid-19. Et ceci était parti du réseau social officiel du Premier ministre.
Oui, c'était cette idée, enfin, il y a eu toutes ces fake news autour du Covid sur le fait que les musulmans faisaient exprès de propager le Covid-19. Et donc là, on a interviewé cet homme dont on a retrouvé la vidéo avec des partisans du BJP, donc du parti de Narendra Modi, qui vont le lyncher, le frapper. Il a vraiment pensé qu'il était mort et tout ça partait d'une news qu'ils avaient reçue aussi sur leur groupe WhatsApp. Suite à des publications de Namo.
Je reviens à WhatsApp. Quelle est la réponse des GAFA? C'est la dernière partie de votre documentaire. Quand ces firmes-là, c'est très très rare qu'ils parlent, vous avez utilisé des images qui sont des images d'une commission d'enquête américaine. Mmh. Que répondent les patrons des grands groupes, des grands réseaux sociaux?
Concrètement, ils disent qu'ils font le maximum. Enfin, ils disent qu'ils font ce qu'ils peuvent faire. Le problème, c'est ce que dit Christopher Wiley, c'est ce que disait un autre chercheur aussi à Stanford, c'est que le problème, c'est qu'on ne peut pas leur demander... En fait, il faudrait que leur algorithme soit parfait. Donc déjà, il y a deux choses. C'est que, un, il n'y a aucune transparence sur leurs algorithmes. Donc on ne sait pas ce qui se passe. Par exemple, on vient d'apprendre, grâce à la lanceuse d'alerte qui a parlé hier, qu'ils avaient modifié leurs algorithmes pour limiter les fake news pendant l'élection américaine de 2020, pendant quelques semaines.
Mais ensuite.
Facebook, ouais. Pardon, excusez-moi. Et qu'ensuite, ils sont revenus à leurs algorithmes précédents. Donc, c'est-à-dire, vous dites, mais pourquoi?
Parce que le business l'impose.
Parce que le business l'impose. Parce qu'en fait, ils gagnent plus d'argent en promouvant les fake news. C'est ça, la réalité.
On va entendre la critique de fond, puisque vous en parlez. C'est Christopher Wiley. C'est l'homme qui avait débusqué, il y a quelques années, le scandale de Cambridge Analytica. Il est très critique envers les GAFA, ou plus exactement, envers leur manque de volonté pour régler, justement, ce problème de la sécurité.
Quand on parle de discours haineux ou de désinformation, d'antivax, de problèmes de santé mentale, on s'intéresse aux symptômes d'un problème sous-jacent. Et ce problème, c'est la mauvaise ingénierie. Quand vous discutez avec les ingénieurs logiciels et les spécialistes des données dans le secteur de la tech, la sécurité ne fait jamais partie de la conversation. Imaginez si vous aviez un autre secteur qui utilisait l'argument de la Silicon Valley. Oui, nos médicaments empoisonnent les gens. Mais nous faisons notre possible. Oui, nos avions tombent du ciel, mais on fait ce qu'on peut. On n'accepterait jamais ça de la part de n'importe quel autre secteur. Et donc ma question est, pourquoi devraient-ils gagner de l'argent s'ils n'ont pas prouvé que leurs algorithmes sont sûrs?
Je voyais sourire Anthony Orléans, c'est drôle, mais c'est terrible.
Ben oui, bien sûr, mais il a tout à fait résumé la situation, Christopher Wiley. Ces gens-là ont atteint un business où ce qui compte, c'est l'engagement, c'est-à-dire provoquer des émotions telles que les gens n'arrivent plus à décoller de leur application. Qu'importe si ça propage la haine, des mensonges, de la propagande, à partir du moment où les gens s'énervent sur leur téléphone portable, ils gagnent de l'argent puisque vous y passez plus de temps. Et donc, ils n'ont aucune raison, en fait, fondamentalement, d'arrêter.
Ils ont peut-être une raison qui serait si les lois changeaient. On a vu qu'il y a des pays qui laissent tout faire. Les États-Unis, c'est pas encore énorme. L'espoir vient d'Europe. Thierry Breton, le commissaire européen, est interrogé à ce sujet. Et je sens qu'à la fin de l'entretien, vous êtes quand même un peu goguenard. Vous ne croyez pas trop à ces belles intentions.
En fait, c'est toujours la même chose. On attend de voir. Maintenant, là, ce que nous expliquait Thierry Breton, c'est nous, c'est super, on va faire une très belle loi cadre, mais ensuite, on va devoir voir et négocier chaque phrase de cette loi et qu'est-ce qu'il y a exactement et quelles sont les conséquences. Il nous dit, ce qui est vrai, hein, à son crédit, rien n'avait été fait depuis 20 ans. Donc déjà, au moins, il y a une volonté politique de faire quelque chose.
Il y a 20 ans, les réseaux sociaux n'avaient pas été inventés. Donc c'est normal qu'on fasse rien pour les réguler.
Mais depuis les 5-10 dernières années, il n'y avait rien qui a été fait. Donc lui, au moins, il met ça sur la table. La question est, qu'est-ce que ça va être dans les alinéas, qu'est-ce que ça va être dans les... Et c'est chaque mot qui va compter. Et là, on sent que la bataille ne fait que commencer et que c'est pas du tout sûr qu'elle soit gagnée.
Merci beaucoup Alexandra Josset. Je rappelle, vous êtes journaliste. Anthony Orlian, vous êtes producteur à Capa. Je rappelle, les nouveaux manipulateurs, c'est ce soir sur Arte à 21h et c'est quand on veut sur arte.tv. Merci d'avoir été avec nous en direct.
Merci beaucoup.